Père Philippe, 10 février 1984, Saint-Joseph.
La physis matière et la physis forme font que les deux sont co-principes. Vous avez un nom, une autre chair, l'ousia, qui est l'axe, la qualité. Qualité, détermination secondaire. Ici, c'est la division de l'être, c'est-à-dire de ce qui est. Ici, c'est la division de ce qui est lu. Ce qui se meut. Vous découvrez l'âme, la psyché, et vous découvrez le corps, soma. Psyché et le corps. Alors vous voyez bien, ça dépend des deux, hein. Il y a une analogie avec les deux. Mais, faisons attention, nous découvrons l'âme directement. Je n'induis pas l'âme à partir d'une autre induction. Je ne déduis pas l'âme à partir d'une autre induction. Il y a une induction propre qui me fait découvrir l'âme à partir des opérations vitales. Donc, ceci est le fruit d'une induction. Je ne fais pas une espèce de déduction à partir d'autres principes. Il y a un principe propre qui est l'âme. Et ce principe propre de l'âme, je l'oppose immédiatement par rapport au corps, et le corps n'est pas posé comme un accident de l'âme, comme quelque chose de secondaire, comme une qualité, mais est posé comme un principe, un co-principe de l'âme. Donc, je peux faire l'analogie de la physis forme et de la physis matière. Faites attention, je suis libre. Hein. Je découvre ça par induction, indépendamment des deux autres. Mais une fois que j'ai découvert, je peux faire des analogies avec les deux autres. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le procédé, méthode de connaissance est très important, ce que je dis là. Parce qu'autrement, alors, on va zoomer. On ne comprend plus rien du tout. Nous avons vu comment nous découvrions l'âme à partir de la diversité des opérations vitales et à partir de leur unité. Et nous découvrons ce principe fondamental, ce principe source de toutes les opérations vitales, l'âme. Et je découvre l'âme à l'intérieur du corps, à l'intérieur du vivant, ce qui se meut, le vivant. Et donc, je ne découvre pas du tout le corps comme une qualité, je ne découvre pas du tout le corps comme un accident, je découvre le corps comme co-principe de toute une série d'opérations vitales. Mais en même temps, je découvre qu'il y a des opérations vitales qui dépendent beaucoup moins du corps que d'autres. Tout de suite. Donc, je ne découvre pas du tout le corps comme une qualité. Je découvre le corps comme un co-principe. Une fois que je fais cette découverte inductive et que j'ai les deux autres, je peux donc, je vais mettre C ici. Je peux faire donc l'analogie de C par rapport à A et une analogie par rapport à B. Et je vois qu'en effet, il y a des ressemblances analogiques entre l'induction de l'âme et du corps, ou de la découverte, si vous aimez mieux, de l'âme et du corps, avec la physis forme et la physis matière. Donc je fais une analogie entre C et A. Et je peux compléter cette analogie par une autre analogie, toute différente, de C avec B. Et de voir que, en effet, l'âme n'est pas seulement physis forme, elle est aussi substance. Mais quand je dis qu'elle est substance, je dis tout de suite, attention, le corps n'est pas une qualité et un accident, il demeure un co-principe substantiel. Et C'est pour ça, si je déduisais, c'est très intéressant même à remarquer, si je déduisais à partir de l'ousia et de la qualité l'âme et le corps, j'aurais la position platonicienne. Voilà l'erreur de Platon. C'est que Platon, confondant être et vie, il n'y a pas d'induction, il n'y a qu'une seule découverte, la découverte de l'ousia. Et l'ousia, elle est l'âme. Oui, si je mets ousia, et que je ne vois pas le niveau différent. Je suis au niveau de l'être, ici je suis au niveau de la vie. Si je ne vois pas le niveau différent, j'aurai donc une déduction, je ferai une découverte semblable en disant, ayant découvert l'ousia, je découvre l'âme, et donc le corps n'est qu'un accident, le tombeau de l'âme. Ou je peux avoir juste l'inverse, les premiers physiciens, juste à l'inverse de Platon. Alors, je dis, mais oui, il n'y a pas de différence entre ce qui est mu et ce qui se meut. Et donc, je découvre la physis forme et la physis matière. Et je dis, l'âme et le corps, c'est exactement la même chose. Il y a trois inductions irréductibles. Père, pourrait-on dire que la transsubstantiation correspond en philosophie à un changement de sujet en conservant les mêmes catégories puisque le sujet se situe au niveau d'une saisie commune pré-philosophique? Eh bien non. La transsubstantiation ne peut pas se situer au niveau d'un sujet. Correspond en philosophie à un changement de sujet en conservant les mêmes catégories. C'est pas, oui, sujet dans le sens que substance première, si vous voulez. Non. La substance première implique nécessairement des déterminations. Parce que c'est pierre. Pierre. Alors vous direz que, vous voyez, c'est pas ça. C'est beaucoup plus. Essayez de voir quelque chose de fondamental, et c'est pour ça que c'est quelque chose d'unique, évidemment. Je peux pas dire, par exemple, que pierre est changé, c'est pas pierre qui est changé, c'est la substance de pierre. Ce serait la substance, c'est la substance du pain. Oui. Alors, pain, le sujet du pain, hein, quand vous parlez du pain, quel est le sujet? Quelle est la substance première? Quel est le sujet du pain? En conservant les mêmes catégories. Puisque le sujet se situe au niveau d'une saisie commune pré-philosophique. Je vois que c'est parce que vous dites pré-philosophique et je dis que transsubstantiation, c'est un sujet non philosophique. C'est même pas pré-philosophique. Les catégories sont déjà de la philosophie. Tandis que quand j'emploie le mot transsubstantiation, je ne suis plus au niveau philosophique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop d'assimilation. En disant, les catégories m'aideraient de se comprendre. Non. C'est deux choses différentes. Les catégories, c'est pré-philosophique, mais c'est déjà de la philosophie. C'est déjà une certaine élaboration. Les catégories d'Aristote montrent une certaine philosophie. C'est pour ça que dès que je transpose les catégories d'Aristote dans une autre philosophie, je leur donne une signification tout autre. Tandis que transsubstantiation peut être admise par n'importe qui. Évidemment, dans une philosophie idéaliste, c'est pas très commode. Mais alors, tout est comme ça. Comment voulez-vous, dans une philosophie idéaliste, accepter la foi? La foi implique un jugement d'existence. C'est ça qui est très difficile. Enfin, c'est là où l'Église montre, on peut, c'est pas irréductible. Hein. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. Il y a des convertis ou il y a des gens qui ont la foi et qui ont une philosophie purement idéaliste. Alors qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Une coupure complète entre les deux domaines. Le domaine de la philosophie et le domaine de la foi. Et il n'y a aucune communication entre les deux. Puisque l'idéalisme, par définition, ne peut servir en rien à la foi, puisque la foi est réaliste. La foi est réaliste. Je ne peux pas nier que la foi est réaliste. La foi a un réalisme divin. Alors je dirais, en me mettant dans la position, mettez-vous un instant dans la position d'un idéaliste. On peut le faire. Essayer. C'est pas commode, mais on peut le faire. Bon. Alors, je suis croyant. ma foi me permet d'adhérer à une réalité qui transcende. Mais je dirais, le réalisme, il est divin. Le réalisme de la foi, il est divin, il n'est pas philosophique. Je suis tout à fait d'accord. Le réalisme de la foi, il est divin. La philosophie, c'est autre chose. En philosophie, je suis idéaliste. En tant que croyant, je suis réaliste, d'un réalisme divin. Je peux dire ça, bien évident. Et je suis réaliste quand j'achète des petits pois, ou des carottes, ou des navets au marché. Je suis réaliste. Je suis réaliste quand je rencontre un ami et que je lui serre la main. Je suis réaliste, c'est la vie courante. La philosophie, c'est un domaine particulier. Messieurs et mesdames, n'est-ce pas, vous faites de la philosophie, mettez votre bon sens à la porte, comme disait Brunswick. Il commençait son cours comme ça à la Sorbonne, toujours. Messieurs et mesdames, mettez votre bon sens à la porte, nous allons faire de la philosophie. Alors, vous voyez, nous avons là, alors à ce moment-là, ça qui est très important à comprendre, hein, nous avons donc le réalisme de la foi. Il faut toujours réfléchir à ça, parce que nous aurons des gens qui seront dans l'idéalisme. Donc il faut essayer de comprendre ce que c'est, au point de vue forme de pensée. Vous avez le réalisme de la foi. Réalisme. Ça me fait toucher à l'esprit. L'essai du mystère est tout autre. Je suis tout à fait d'accord. Il est tout autre. Réaliser la foi est tout autre. Dans la foi, je touche quelque chose de tout à fait différent. Bon, très bien. Première affirmation. J'ai le réalisme affectif. Comme nous avons envoyé. Je rencontre Pierre. Et je lui serre la main. En lui serrant la main, je suis devant quelqu'un, mon ami. Je ne mets pas en doute qu'il existe. Mais ce n'est pas de la philosophie, c'est mon amour. C'est mon sentiment. Je l'aime. Le réalisme du sens commun. Appelons ça le sens commun. De façon habituelle, ça dit que c'est très difficile. Le sens commun, ça a des significations très différentes. Le sensus communis d'Aristote n'est pas du tout ce qu'appelle Descartes le sens commun, et ce qu'on a appelé le sens commun. Ce que le père Garrigou appelle le sens commun, la philosophie du sens commun. C'est un non-sens, la philosophie du sens commun. Parce que qui dit philosophie ne dit plus sens commun, hein, au sens tout à fait rigoureux. Alors, le sens commun, j'achète des carottes au marché. Je ne me pose pas de problème. J'achète des carottes au marché, je ne me suis pas fait de problème. Il y a de l'air, quoi. Sens commun, je m'assieds sur une chaise. Sens commun. Je sais bien qu'elle existe. Je ne vais pas m'effondrer. Mais bon, c'est un sens commun. Alors, et puis, je vais faire la philosophie. Alors, mettez entre parenthèses, pour faire la philosophie, ceci, mettez entre parenthèses ceci, et nous allons faire la philosophie. Et nous sommes dans le domaine des idées. Et je demeure dans le domaine des idées. Quel est le rapport de ces idées avec le sens commun ? Ah, grand problème. Savoir comment l'intentionnalité peut rejoindre le sens commun. Grand problème. Quel est le rapport des idées et de la foi ? Très gros problème. Quel est le rapport des idées avec mon affectivité ? Un autre problème. J'ai un domaine propre, le domaine des idées. Et je fais de la philosophie dans ce domaine des idées. Dans une attitude réflexive sur le domaine des idées. Sur le domaine des idées, sur le domaine des paroles du langage. Et j'ai mon domaine philosophique propre. Je peux très bien faire ça. Comme j'ai un domaine philosophique propre, la logique. À ce moment-là, la philosophie est très proche de la logique. Je pourrais distinguer peut-être à l'intérieur de ma philosophie un secteur particulier logique et au fond serait assez propre, assez proche. C'est une philosophie, parce que je peux très bien, hein, je fais de la logique. Et quand je fais de la logique, je dis, messieurs, mesdames, mettez en dehors de la chose votre amour, vos sentiments. Les sentiments n'ont rien à voir avec la logique. Heureusement pour la logique, heureusement pour les sentiments. Donc, ils n'ont rien à voir. Je respecte la pureté de mon affectivité. Ma logique n'a rien à voir avec ma foi. La foi, côté affectif. Ma logique n'a rien à voir avec les carottes et les navets. C'est bien évident. Donc, j'ai un domaine propre dans lequel je réfléchis, comme j'ai un domaine propre intellectif. Comme j'ai un domaine propre ici. Tout à fait normal, hein, dans une santé méta-science, méta-logique. J'ai ce domaine propre. Alors, on pourra se poser les relations qui existent entre tout ça, parce que je sais très bien, les objectifs, c'est l'homme. C'est l'homme qui pense, c'est l'homme qui est le sujet de la logique, qui est le sujet de... J'ai un domaine particulier, c'est très particulier pour moi. C'est une position idéaliste. Alors, le très gros problème, ce sera de savoir, est-ce qu'il y a possibilité dans le réalisme de la foi qui se sert de la parole de Dieu, de rejoindre ce que ma philosophie idéaliste me dit sur le langage. Parce que le langage humain est différent de la parole de Dieu. Est-ce qu'on pourra faire une telle logique ? Enfin, c'est une question, mais c'est une question que je ne veux pas traiter maintenant. Mais c'est une question qui se pose. Si on est croyant, y a-t-il des rapports entre les deux ? Alors, la position que nous avons au point de vue philosophique n'est pas celle-là, puisque nous disons que la position philosophique, c'est d'expliquer ce que c'est que l'homme. L'homme qui fait ses cours le matin, l'homme qui rencontre son ami, l'homme qui réfléchit au point de vue logique, qui peut réfléchir sur la philosophie idéaliste des autres, l'homme qui est croyant. Le terrain d'atterrissage, c'est l'homme. Alors, comment je saisis l'homme ? Est-ce que l'homme est en dehors de ma philosophie ? Ou est-ce que l'homme est au cœur de ma philosophie ? C'est toute la question. Dans une position idéaliste liée à la logique, l'homme est en dehors de ma philosophie. Je ne peux pas regarder l'homme. Parce que si je regarde l'homme, je suis pincé. Parce que c'est l'homme qui aime. Ah. C'est l'homme qui achète des carottes et qui les mange. C'est l'homme qui est croyant. Terrain d'atterrissage, c'est l'homme. Alors, est-ce que l'homme fait partie de la philosophie ou ne fait pas partie de la philosophie ? C'est la conception. Et c'est toute la question que le Saint-Père se pose en personne et acte. Il montre qu'on est obligé de revenir à une position ontologique si on parle de l'homme comme personne. Et au fond, c'est intéressant à ce point de vue-là, c'est ça qui m'intéresse ici, c'est de voir comment une philosophie qui regarde l'homme et qui veut regarder l'homme doit nécessairement toucher l'homme dans son réalisme, puisqu'il doit regarder l'homme dans ses différents aspects. Et je vois que l'idéalisme, ça existe, c'est évident que ça existe. C'est un aspect, mais ça ne peut pas être identique à l'homme. Donc à un moment donné, je suis obligé de briser avec mon idéalisme. Alors est-ce que je brise mon idéalisme uniquement pour le point de vue du sens commun, uniquement pour l'affectivité, uniquement pour la foi? Ou est-ce que je peux briser mon idéalisme, même pour ma philosophie ? Autrement dit, y a-t-il une philosophie réaliste qui rejoint l'homme sur dans son exister ? Oui. Ou est-ce qu'au fond, la philosophie n'est qu'une partie de logique, elle n'est qu'une attitude réflexive, elle est liée uniquement au langage comme la logique, et elle reste un secteur spécial, analogue au secteur mathématique, analogue au secteur, un secteur spécial, qui n'a rien à voir avec l'homme du bon sens, l'homme affectif qui aime, et puis tout. Mais je crois que c'est important de saisir ça. Alors, au fond, c'est la question un peu posée, vous voyez. Alors, je me pose la question, là, au point de vue de la transsubstantiation. Quand je dis la transsubstantiation, c'est le langage ordinaire de l'homme, donc c'est le langage de l'homme du bon sens. Dès que l'Église se sert du langage, elle s'en sert du langage comme de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas la parole du mathématicien. La parole de Dieu n'est pas la parole du logicien. La parole de Dieu n'est pas la parole de l'idéaliste. Elle est la parole de l'homme dans ses sentiments d'amour. C'est la parole du père, c'est la parole de l'ami, c'est la parole de l'époux. Avant tout, c'est la parole de celui qui nous crée. Et qui nous crée dans l'Éden. Et qui nous crée avec des orties et des charbons depuis le péché. Parce que les orties et les chardons ont poussé après le péché. Avant, ils étaient piquants. C'était merveilleux. C'était quelque chose. Ou bien votre peau était capable de supporter les orties et les choses. Vous voyez, la question se pose. Est-ce que la parole est prise comme une parole simple, comme la parole de Dieu? Alors, c'est la parole pour tout le monde. Et le mot transsubstantiation, quand l'Église s'en sert, c'est la parole pour tout le monde. Ce n'est pas une parole qui a une saveur ou une transformation, une modalité philosophique. Donc ne la ramenez pas aux catégories. Parce que ce serait encore pré-philosophique et donc ce serait encore philosophique. Alors la dernière fois, vous avez parlé des rapports entre l'être et la vie. Pourriez-vous revenir sur l'âme et l'ousia ? Nous y reviendrons. Dans la deuxième voie, on remarque que dans l'homme, on distingue l'âme et le corps au niveau de la vie, mais qu'ils ne sont qu'un au niveau de l'être. Il y a donc un principe d'unité qui est au-delà de cette distinction. Pourquoi alors pose-t-on l'âme comme principe d'être et d'unité de l'âme ? Vous voyez, c'est exactement ce que vous ai dit tout à l'heure, du moins, j'espère que vous avez compris. Quand j'induis le point de vue de l'âme, je l'induis comme principe de vie. Quand j'ai fait cette induction C, je peux la comparer à B. C'est sûr. À ce moment-là, je regarde les rapports entre l'âme et l'ousia. Et je dis que l'âme, elle est ousia. Parce que en moi, ma vie, c'est mon être. Si en moi, ma vie, c'est mon être, le principe de ma vie, c'est le principe de mon être. Mais je vois très bien qu'en faisant ça, j'inclus immédiatement mon corps. C'est là qui est très intéressant. Et c'est ça qui serait intéressant. Dans l'induction, je distingue âme et corps. Quand je regarde âme ou zion, j'ai le droit de le faire. Hein. Je compare C à B. Et je regarde âme et zion. Quand je regarde âme et ousia, j'essaie de comprendre quelle est la relation nouvelle avec le corps. Et je dis, quand je regarde âme et ousia, puisque c'est un principe d'être, ousia, le corps est impliqué dedans. Puisque le corps fait partie de mon être. Mais le corps ne fait pas partie de ma vie. Du moins, le corps est informé par mon âme et n'est pas principe. Le corps est co-principe d'être. Autrement dit, si vous voulez, hein, pour que vous saisissiez bien, le rapport entre âme et corps, en tant que l'âme est principe de vie, n'est pas le même que l'âme ousia par rapport au corps. C'est assez subtil, mais c'est comme ça qu'on doit essayer de le comprendre. C'est évident, c'est assez subtil, ça, ce que je vous dis là. Mais je crois que c'est intéressant à le saisir. Le rapport de l'âme principe de vie au corps n'est pas le même que le rapport de l'âme ousia par rapport au corps. Vous allez me dire, mais pourquoi ? C'est très simple. C'est que lorsque vous regardez l'âme comme principe de vie, vous vous situez au niveau de ce que représentent les opérations vitales et leur source. Lorsque vous vous placez âme et ousia, vous vous placez au niveau de la réalité en tant qu'elle existe. Alors, c'est deux points de vue différents. Le corps n'est pas immédiatement principe de vie, tandis que le corps existe. C'est pour ça qu'il est intégré, et c'est de fait ce qui se passe, c'est que lorsque je regarde l'âme ousia, j'ai tout de suite le principe de l'individuation. Le corps individu, le corps fait de mon âme un individu. Tandis que je ne peux pas dire que le corps fait de mon âme un individu. Très curieux. Hein? Mon âme n'est jamais un individu. L'âme est toujours distincte du corps. Pas séparée, mais distincte. En tant que principe de vie. Tandis qu'en tant qu'ousia, elle assume le corps. C'est pour que vous compreniez mieux ça. J'espère. Petit à petit, hein, on va toujours tout saisir en même temps. Et je crois que ce qui est important, c'est de saisir au moins qu'il y a trois inductions. Ça, c'est très important. Donc saisir les niveaux différents d'intelligibilité. Alors, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas séparer, mais distinguer les principes. Ne séparez surtout pas ousia et âme. En disant, j'ai deux principes l'un à côté de l'autre. Alors je tâte, je saisis mon âme. Mais mon ousia, où est-ce qu'elle est? Si vous saisissez votre âme, vous saisissez votre ousia. Mais saisissant l'âme en tant qu'ousia, vous saisissez dans l'âme autre chose, qui n'est pas saisi explicitement dans l'âme principe de vie. C'est toujours la même chose. La réalité est plus que ce que vous saisissez. Dès qu'on analyse, il faut accepter que le fruit d'analyse n'est jamais adéquat à la réalité. Et je suis obligé d'analyser pour aller plus loin. Je suis obligé d'accepter que mon analyse et le fruit de mon analyse n'est pas adéquat à la réalité. Mon langage n'est jamais adéquat à la réalité. Mon langage, vous voyez, il y a toujours les trois aspects. Ce que je saisis, ce que j'exprime et ce qui est saisi. La réalité, ce qui est saisi. Ce que je saisis, ma pensée et ma manière de parler, le langage. Cette fameuse distinction, n'est-ce pas, qu'on retrouve en philosophie grecque, le toainai, le tonoen et le tolegen. Il y a toujours ça devant les yeux. Le ton et l'image, ce qui est. La réalité. La réalité existante. Le ton, Noël, ce que je saisis de cette réalité. Et le ton, les guerres, ce que je dis de ce que je pense, de ce que j'ai saisi. Le taux des guerres, le taux naël, le taux est naël. Ça, c'est une distinction auquel il faut tout le temps venir. C'est la vieille distinction par moi. Alors, il faut arriver petit à petit à savoir jongler avec ça. Alors vous comprenez que l'analyse est au niveau du tonnerre. Donc l'analyse n'est jamais adéquate au toinai. Le toinai, c'est pierre. Dans pierre, en analysant, je saisis l'âme. Et je dis l'âme. J'en parle. Je saisis, par rapport à l'âme, le corps. Niveau de la vie. Le corps est irréductible à l'âme au niveau de la vie. Le corps est ce qui est informé par l'âme. Ce qui est, d'une certaine manière, la matière informée par l'âme. Je peux maintenant réfléchir, puisque je fais la métaphysique. Ah, l'âme, elle est substance. Elle est substance, c'est vrai. Puisqu'elle est principe non seulement d'être, mais aussi de, non seulement de vie, mais d'être. Alors, en tant que je dis que l'âme est ousia, je me sers d'une autre analogie. Et je vois les liens entre l'analogie C et l'analogie B. Et j'essaie de comparer. Quand je parle de l'âme en tant qu'ousia, qu'est-ce que devient le corps? Il individualise mon âme. Il individualise ma substance. La substance est individualisée, elle existe Nousia existe dans mon corps. Et mon corps fait partie de mon être. Et l'être est plus vaste, si j'ose dire, que la vie. Puisque la vie, c'est l'être parfait. Tandis que l'être, c'est l'être, ce qui est. Donc il est tout à fait normal que le principe d'être et le principe de vie n'ont pas la même compréhension et la même extension. Alors, passons maintenant, si vous voulez, à la dernière manière de saisir l'ousia. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Je parle de l'expérience de l'amour d'amitié. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Pierre rencontre André, qui sont frères. Pierre rencontre André. Ils s'aiment. Ils sont des amis. Ils sont heureux de se rencontrer, ils s'aiment. Ils ont l'expérience de cet amour. Ils ont l'expérience de ce choix. Tu te souviens, c'est l'anniversaire de la première rencontre où ils se sont déclarés qu'ils s'aimaient. On est très heureux pour faire un dialogue avec les gens, parce que c'est tout rappelé ce qui s'est passé avant. Tu te rappelles, il y a 10 ans, nous nous sommes rencontrés, et immédiatement, nous nous sommes compris, nous sommes aimés, comme on est heureux que de se retrouver 10 ans après, et on s'aime encore beaucoup plus. Le vécu de cet amour d'amitié qui est entre nous. L'amour d'amitié, je peux le décrire. C'est du vécu. Je peux le décrire. Et l'amour d'amitié prend dans chacun des amis une forme différente, une forme particulière. S'il y a eu des difficultés, tu vois comment on a lutté contre ces difficultés et on est resté amis. C'est merveilleux. On voit l'amour victorieux des difficultés, victorieux des luttes. Parce qu'il y a toujours un loup qui est là, et qui veut séparer. Alors, au fond, on est heureux qu'on soit resté. Je peux aller plus loin. Je peux dire, dans l'amour d'amitié, qu'est-ce que j'atteins ? J'atteins mon ami. Mais mon ami, c'est mon bien. Je remonte du choix à l'intention. C'est mon bien. Et mon bien, il existe. Donc, à l'intérieur de l'expérience de l'amour d'amitié, je peux expliciter l'existence de Pierre. Alors, à ce moment-là, comprenons bien, je ne suis plus dans la rencontre. Je réfléchis, j'analyse cette rencontre. Et je dis, oui, mon ami, c'est mon bien, il existe. Comme tout bien. Je passe donc de l'amour à l'exister. Et cette démarche peut se faire simultanément si les deux amis sont un peu philosophes, Pierre et André. Évidemment, André va plus vite que Pierre dans le raisonnement, normalement. Alors, l'un va plus vite, mais tous les deux peuvent se retrouver en disant oui, nous existons. Et nous n'y avions jamais pensé. C'est ça, c'est le mieux. Nous étions contentés, mais 10 ans après, on voit que ça dure. Or, l'amour implique que ça dure, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que ça dure ? Mais c'est que nous jouons encore. Mais nous savons très bien que Pierre, qui est plus âgé qu'André, peut mourir avant. Alors il y a la mort. Phénomène de la mort. Qui est le phénomène de la rupture. On ne peut plus se donner la main. On ne peut plus se regarder. On ne peut plus écrire l'un à côté de l'autre. Le phénomène de la vie commune qui disparaît. La mort vous met en dessous du niveau de la mer par rapport à la vie commune. Le flux est refait. Vous êtes déjà enseveli. Ouais, quand on est mort, on est déjà enseveli. Par rapport à la vie commune, par rapport à l'action amicale. Donc la mort fait une rupture. La mort fait une rupture dans l'exercice de l'amour d'amitié. Mais dans l'intention profonde de l'amour, la mort ne fait pas de rupture. Pour André, André est ça, pour lui, parce que Pierre, il ne dit plus. Mais André fait des déclarations en disant « La mort ne fait aucune rupture, je continue de vivre Pierre comme avant. » Et ce qui est très extraordinaire, c'est qu'il est encore plus présent qu'avant. Parce qu'avant, je devais le chercher, mais t'as plus soin. Il est là avec moi. Extraordinaire, présence extraordinaire dans l'intention. Il ne faut pas souhaiter la mort pour que ça arrive. L'intention d'amour, l'intention d'aimer, il est beaucoup plus présent. Un phénomène très particulier. C'est cette intention vitale qui demeure et qui fait le lien affectif. Alors, il y a une union affective très intense. L'union effective n'existe plus. Vous savez, nous avons fait la distinction entre union affective et union effective. L'union affective n'existe plus, mais l'union affective a en quelque sorte quelque chose de beaucoup plus intense qu'avant. Il n'y a jamais de brouillard. Tandis que dans l'union affective, il y a toujours des petits brouillards. L'un est fatigué, l'autre est en pleine santé. Oh, tu m'assommes, aujourd'hui je suis fatigué. Donc l'union affective, de temps en temps, vous voyez, est diminué à cause de l'union effective qui fait qu'ils n'ont pas le même âge, qu'ils sont deux individus différents, qu'ils ont deux rythmes, et ainsi de suite. Hein. Tandis que là, ce qui est merveilleux, c'est que c'est toujours lié un ciel bleu parfait. Parce qu'il ne répond que dans la mesure où j'interroge, et qu'il répond toujours hein, de la même façon que j'interroge. C'est l'union affective, l'identité affective, il y a une identité dans l'affectivité. Tandis que dans l'union effective, il n'y a pas d'identité. Il y a l'union, une harmonie. Donc, je saisis avec beaucoup de netteté par la mort que l'union affective est autre chose que l'union effective. Je saisis par la mort, ça peut se faire en dehors de la mort, hein, mais la mort est un lieu remarquable pour cela. C'est pour ça que le philosophe regarde toujours la mort. La mort fait déceler des tas de choses qui ne seraient pas décelées autrement. Parce que ça brise. Vous voyez ? Là, c'est une séparation. Ce n'est pas seulement une analyse. C'est toute la différence. Une analyse, c'est une analyse, je distingue. Tandis que la mort sépare. Et pour beaucoup de personnes, les distinctions sont incompréhensibles et on ne comprend que les séparations. Quand votre intelligence est un peu trop liée au sensible, vous ne comprenez que la séparation. Vous ne comprenez pas les distinctions. Vous avez une peine énorme d'analyser. Parce que votre intelligence est trop liée au sensible, trop liée à l'affectif. Alors elle refuse l'analyse, elle refuse la distinction. La séparation, vous êtes bien obligé de l'accepter. Ça vous tombe dessus. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Et si vous continuez à dire « Oh non, non, il n'est pas mort », l'union, ça dure un petit moment, mais ça ne dure pas très longtemps. Tu vois, cette union affective qui demeure, l'union affective qu'on veut croire, non, ça ne dure pas très longtemps. L'union affective peut durer. Ça, aucune raison que ça ne dure pas. Même si c'est mêlé d'une certaine imagination, avec tous les portraits, tous les, vous voyez, dans ma chambre, je n'ai que des portraits depuis le berceau jusqu'à la fin. J'ai tous les portraits possibles et ça me permet de revivre ça, de me représenter ça. Et je vis vraiment avec lui. On voit très très bien ça. Ça existe ces choses-là. C'est l'union affective par la représentation. Mais la mort met une brisure et je sens très bien qu'il y a deux choses différentes. L'amour et l'exister. Obligé de l'accepter. Parce que si l'amour était identique à l'exister, jamais mon ami ne serait mort. Ça, c'est bien évident. Même si je suis très heureux de l'union affective, quand même, hein, quand même. Hein. L'union affective appelle l'union affective. Il y a un appel. Et donc, si l'amour était identique à l'exister, jamais mon ami ne serait mort. Si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Hein? C'est très, très significatif, ils vont très loin, ça. Parce que pour Dieu, l'union affective et, l'union, et le point de vue d'exister ne font pas. Ça, c'est évident. En tant que Dieu, ça, c'est très important, vous voyez, parce que ça me fait comprendre que dans l'ami, il y a l'homme qui existe et l'ami. Je peux donc chercher que représente l'unité profonde de l'union affective et que représente l'unité profonde de l'exister. Autrement dit, je suis bien obligé, dès que j'ai la distinction entre amour et exister, je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a un principe d'unité au niveau affectif qui n'est pas le principe d'unité au niveau exister. Et je peux chercher quelle est l'unité de l'être de mon ami en tant qu'il existe. L'unité de l'être de moi-même en tant que j'existe. Et l'unité de cette union profonde dans l'ordre de l'amour. Je dois accepter qu'il y a deux aspects différents. Il y a une séparation. Et je peux accepter cette diversité. Et alors, à ce moment-là, je découvre qu'est-ce qui fait l'unité dans l'ordre de l'amour. Le même vouloir, idem velle, le même vouloir. Je peux avoir avec mon ami le même vouloir. Et si je n'ai pas le même vouloir avec mon ami, il y a tout de suite des dissonances. Je veux aimer mon ami d'une manière telle que nous soyons un dans cette volonté d'aimer. Et si nous sommes un dans cette volonté d'aimer, nous sommes un dans l'amour. L'unité d'amour, c'est dépasse la dualité, vous voyez. C'est ça qui est très curieux. Il y a une unité qui unit deux êtres différents. Ce qui montre que l'amour peut réaliser une unité plus profonde que l'être. Mais moins fondamentale, puisque l'être de pierre peut disparaître même si je l'aime. Alors, vous voyez, je vois là la différence entre le point de vue de l'amour et le point de vue de l'être. Et je me pose la question, quelle est cette unité fondamentale dans l'ordre de l'être? Et me poser la question, quelle est l'unité fondamentale dans l'ordre de l'être? C'est bien revenir à cette recherche de ce que c'est que l'ousia. Donc, vous voyez, l'amour me permet de m'approcher d'un autre en reconnaissant qu'il y a deux manières d'être unis à lui, union affective, union effective, et par le fait même qu'il y a ces deux unions, l'une peut exister sans l'autre, et si l'une peut exister sans l'autre, on peut donc chercher quelles sont ces deux sources d'unité. Unité dans l'ordre de l'amour, unité dans l'ordre de l'être. Oui. Vous voyez qu'en définitive, hein, ce n'est pas une nouvelle voie, mais ça nous manifeste qu'il y a une nécessité, au-delà de l'amour, de revenir à la réalité, à l'exister de mon ami et à mon propre exister, pour saisir quelle est l'unité fondamentale de l'être de mon ami, l'unité fondamentale de moi-même. Et je vois que cette unité n'est pas l'unité qui se fait dans l'ordre de l'amour.